de pointe, Philippe Subercase.
Les sujets de délinquance font la part belle, hein, des journaux et des sujets de télévision. On voulait faire un petit focus sur ce qui se passe à la ville de Lourdes et nous avons le plaisir avec Delphine Pereira qui représente le groupe La Dépêche. Bonjour Delphine.
Bonjour, bonjour à tous.
De vouloir un peu faire le focus, d'ailleurs c'était sur la une du journal municipal qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur la ville de Lourdes. Merci monsieur le maire, merci Thierry Lavitte de nous accorder ces quelques minutes et d'avoir accepté cette invitation de l'heure de pointe en partenariat avec le groupe La Dépêche et Radio Présence. Et vous Armel Clémence Alamel, qui est la responsable de la police municipale de la ville de Lourdes. Merci d'avoir aussi accepté d'être venue jusqu'à nous pour cette émission. Alors, on va parler bien sûr de plusieurs sujets. Hein. D'abord, les métiers. Hein. Et puis, y a-t-il de la délinquance à la ville de Lourdes? Faut-il, vous avez augmenté de 7 à 15 le personnel de la police municipale. Il y a 9 policiers nationaux qui sont arrivés aussi au commissariat de Lourdes en plus. Fallait-il ça? Y a-t-il de la délinquance? Y a-t-il aussi, en dehors de la délinquance, des risques d'attentats, hein, puisque malheureusement, on voit qu'il y a des pays, même si ça s'est relativement calmé en France, il y a toujours des attentats qui sont déjoués, dixit le ministre de l'Intérieur. On va prendre le temps de découvrir un peu dans les coulisses de la police municipale dont vous êtes, monsieur le maire, le patron.
Ben, le chef de la police municipale, c'est Madame Clémence Alamel, mais le maire a le pouvoir de police générale administrative et donc s'inscrit au-dessus du chef de la police. Alors, d'abord, merci de nous permettre de venir parler de ce sujet au moment où je suis souvent interpellé dans la rue et notamment récemment, pourquoi avoir augmenté l'effectif de la police municipale, pourquoi mettre des moyens nouveaux, pourquoi avoir cette attitude. Et finalement, je réponds très clairement, j'assume totalement le fait que nous voulions, nous les élus, une ville sécurisée, une ville internationale où des millions de personnes viennent depuis des dizaines d'années et la saison aujourd'hui bat son plein, donc nous avons quand même une charge de responsabilité en ce qui concerne les personnes venant de l'extérieur, mais aussi en tout premier lieu les résidents, les habitants et les futurs résidents. Et c'est très important aujourd'hui, je pense, de se pencher, depuis que nous sommes élus, je suis très très près de ce sujet. Pourquoi? Parce que nous récupérons aussi des nouveaux résidents. Presque 600 habitants ont investi la ville de nouveau depuis 18 mois. Donc il faut donner des conditions d'arrivée à ces habitants. Elles sont de nature sécuritaire, mais aussi sanitaire, de santé. Dans un contexte d'un environnement, je dirais, sympathique. Mais ça ne suffit pas. Et il suffit aussi de regarder, de suivre l'actualité sur tous les médias, pour comprendre que nous vivons une période très compliquée dans une société qui est malmenée. Et en premier lieu, quand on voit l'âge des délinquants aujourd'hui sur les derniers faits majeurs qu'on a observés à la télé, moi j'assume, en tant que responsable de la sécurité sur la ville, les mesures qu'on va vous décliner. L'augmentation du nombre de policiers municipaux armés, l'armement avait déjà été mis en place en 2019 sous la forme de prêts de l'État. J'ai souhaité qu'on change les armes pour du 9 mm CZ aujourd'hui avec deux chargeurs de 15. Pourquoi? Pour d'abord protéger nos policiers municipaux avant de protéger l'usager ou le résident ou le touriste ou le pèlerin. Donc j'assume totalement cette posture. Pour cela, il faut des moyens. Je remercie Monsieur le ministre de l'Intérieur de l'époque, Monsieur Darmanin, qui a quand même permis d'avoir 9 policiers nationaux, sur le commissariat de la ville de Lourdes. Et puis, tous les moyens que l'on met à disposition aussi sont des moyens humains et des moyens de partage et de synergie. Je m'explique, le commandant de la police municipale, enfin, capitaine, Madame Clémence Alamel, travaille avec le commandant Dos Santos, qui est arrivé le 1er janvier 2023. Et on a vu un grand changement avec cet homme-là, parce qu'il vient du 93, parce qu'il a une habitude d'un département un peu compliqué quand même, et qui met à notre service son savoir-faire et aussi sa disponibilité humaine. C'est une grande qualité. Les deux chefs travaillent ensemble. Je les vois très régulièrement. Évidemment, le maire n'a pas propension à dire au commandant de police ce qu'il doit faire, puisqu'il est sous l'ordre du DDSP et directeur de la sécurité publique départementale et du préfet. Mais le maire de la ville peut échanger, discuter, mettre des moyens en œuvre pour travailler ensemble, nos deux polices. Alors, en gros, notre police municipale, oui, à la fin du mandat, aura doublé. Mais on va parler chiffres derrière. Et on va parler aussi opérations. La police nationale, grâce à des efforts consentis par l'État, eh bien, a vu son effectif augmenter. Les polices travaillent ensemble. J'ai demandé aux deux chefs de police de procéder à des contrôles inopinés, routiers, etc. Et les surprises vont bon nombre. Un peu ce qu'on voit à la télé. Heureusement pour nous, nous n'avons pas ni de mort pour l'instant, ni de, et je le souhaite, ni de difficultés comme on peut le voir. Mais les endroits qui sont touchés aujourd'hui sont aussi dans la ruralité. Il n'y a pas que les grandes villes. Hein. Deuxième fait majeur qui me tient à cœur, c'est la lutte anti-stupéfiants, anti-drogue. Donc nous avons mis en place des moyens pour lutter contre la vente de drogue. Je rappelle que depuis le début de l'année, 7 points de deal ont été démantelés. Et je félicite la police nationale et la police municipale qui a aidé à un moment donné pour ce faire. C'est un fléau majeur. C'est un fléau majeur. Je pense tout d'abord à ceux qui en consomment, qui ne se rendent plus compte à quel point ils sont aujourd'hui sous dépendance et deviennent malades, en fait. Et le retour en société est complexe quand on utilise des drogues au long cours. Mais bon, je n'ai pas à faire de leçon à qui que ce soit, mais je le dis quand même, puisqu'en tant qu'ancien soignant, je peux vous dire que les effets délétères de l'usage des stupéfiants sont catastrophiques, mais pour tout, même pour la vie sociale, etc. Mais surtout, je pense à nos enfants, je pense à nos jeunes gens qui sont devant les lycées, les écoles, et qui sont susceptibles à tout moment d'être livrés et d'acheter de la drogue. Donc, la lutte anti-stupéfiants bat son plein. 7 points de deal ont été éradiqués.
À côté de... Ça me dira exactement, à côté de, par exemple, des établissements scolaires ou ailleurs ?
Pas devant les établissements scolaires. Mais ailleurs, sur des points qui ont été bien identifiés. Donc, en tout cas, les opérations ont été rondement menées. Et il y a, alors je le dis à la place du commandant Dos Santos, mais sous le couvert de ces propos avec qui j'ai échangé, il y a une cellule anti-stupéfiant qui a été créée cette année au commissariat national. Donc en fait... rien de vraiment extraordinaire, puisque c'est un fléau national. Mais c'est pour moi, au-delà des incivilités, mais on va y venir dessus, au-delà de l'atteinte à la personne, attaque à la personne, un des sujets majeurs, c'est la lutte anti-stupéfiants pour protéger nos populations et en particulier nos jeunes.
Justement, moi, je vais m'adresser peut-être à Clémence avec une question pour savoir un petit peu quelles sont les prérogatives de chacun, les missions de chacun, la différence entre la police municipale, la police nationale et la façon dont vous travaillez ensemble.
D'accord. En fait, nous, on agit en tant que policiers municipaux sur vraiment deux thèmes. La police administrative qui est liée à la prévention. Dont la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique. Et après, on a un autre volet qui est la police judiciaire. Et nous, on s'inscrit en tant qu'agent de police judiciaire adjoint. Donc, si vous voulez, ce qui se passe avec la police nationale, eux, ils dépendent donc, comme il vous a expliqué, monsieur le maire, de l'État. Et ils prennent leurs prérogatives, en fait, au niveau du préfet, mais aussi des ministres et du procureur de la République. Et donc, le procureur de la République, en fait, il y a des compétences dans les policiers nationaux. Donc, en fait, on a des officiers de police judiciaire qui, eux, dirigent les enquêtes et mènent ces enquêtes pour le stupéfiant, pour des violences intrafamiliales, puisque c'est aussi un fléau de la société, tout le monde y est touché. Et en dessous de ces officiers de police judiciaire, on a des APJ. Ce sont des agents de police judiciaire qui, eux, font des actes aussi d'enquête. Et dessous s'inscrit, en deuxième lieu, souvent on dit les ADS ou les policiers municipaux. Les ADS, ce sont les adjoints de sécurité de la police nationale. Et comme nous, en fait, on rend compte de faits de crimes ou de délits. Et donc, on s'inscrit dans cette chaîne judiciaire qui permet cette relation avec la police nationale. Donc, eux ont essentiellement un rôle d'enquête dans leurs prérogatives. Nous, on a une petite partie de l'enquête, puisqu'après, on traite essentiellement les arrêtés du maire et tout ce qui est au niveau du tribunal avec le procureur.
Parce qu'il y a aussi les ASVP. Parce que ça, c'est une autre catégorie.
Oui.
Et vous pouvez peut-être nous expliquer quelle est leur mission à eux.
Alors, les ASVP ne s'inscrivent pas dans la chaîne judiciaire. Ils s'inscrivent plutôt dans une... En fait, ils sont souvent agents techniques au niveau de la mairie ou agents administratifs. Ils ont un rôle, un petit rôle judiciaire, à proprement dit. Comme tout citoyen, ils doivent rendre de tout crime ou délit, en fait. Vous, comme un ASVP, si vous constatez un fait, vous devez en référer à la police nationale. Derrière, en fait, ils vont intervenir sur la verbalisation du pénal, on dit. Ça va être des infractions au code route, mais ça va être, par exemple, quelqu'un qui s'est stationné sur une place handicapée. Donc, du coup, il est verbalisé, on dit, au pénal. Donc, c'est une infraction au code route. Et après, vous avez les infractions dites non pénales. C'est le stationnement payant, puisque maintenant, le stationnement payant est sorti du pénal et ne dépend plus du code de la route.
Voilà. C'est vrai qu'avant, c'était 17 euros. Hein,
oui.
Et cet argent allait à l'État.
Et
l'État a reversé une partie aux communes pour les aider à financer les routes, entre autres.
Oui. Nombre d'infractions réalisées. Un pourcentage sur tout le département.
Et ensuite, ça a été donc changé pour devenir le FPS, le forfait post-stationnement. Oui. Pour faire simple, en fait, la mairie loue des emplacements de route pour se garer.
C'est
et
ça.
Donc, on paye un droit pour... On loue, hein, quelque part, une partie du domaine public pendant quelques temps. Et du coup, là, on n'est plus dans du pénal, on est sur un forfait post-stationnement. Et là, par contre, l'argent revient directement à la commune.
À la commune.
Alors qu'avant, il partait à l'État et était une petite partie était reversée.
Alors
là, je retourne vers M. le maire. Vous avez augmenté ce forfait post-stationnement de 30 à 40 euros. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que déjà, 30 euros, c'était déjà une belle somme. Minorée si on payait dans les 48 heures à l'eurodateur.
Voilà.
À 20 euros.
Voilà. Aujourd'hui, c'est 30 euros. Alors, avant de venir sur ce sujet, je voudrais quand même revenir sur ce qu'on entend très souvent à la télé, l'insécurité et le sentiment d'insécurité, pour compléter les propos concernant police nationale et police municipale. L'insécurité, vous m'avez posé une première question en parlant d'insécurité, etc. On peut dire aujourd'hui que les attaques à la personne, ce n'est pas le sujet premier. Les vols à la tire, oui. Tout ce qui est vol, voiture, etc., il y en a. Mais il n'y a pas d'attaque à la personne. Ça, enfin, très peu, très très peu. Par contre, je reviens toujours sur le sujet de la drogue et... Si on veut avoir une ville, à un moment donné, sécure, où les gens viennent habiter et se promener en ville, il faut absolument la sécuriser. Et on lutte contre le sentiment d'insécurité, parce que c'est un sentiment que les gens ont. Ils ont peur. Ça, c'est humain, on a peur. On a peur de se promener parfois. On voit la télé qui nous renvoie des images très dures, notamment ces derniers temps. Donc, il y a ce sentiment d'insécurité. Pour lutter contre ce sentiment d'insécurité, il faut que la ville soit sécure. Donc il faut que la police municipale, et ça c'est un rôle premier, soit au contact des habitants. C'est ce que je souhaite. J'ai demandé à la police municipale qu'elle soit en permanence en contact. Donc il en faut. C'est pour ça que nous avons monté le nombre de policiers municipaux. Sans pour cela, il n'y a eu que 3 embauches, je le précise. Puisqu'après, il y a eu des mouvements en interne avec des passages de concours. Et il y a 3 embauches au final. Mais quand on passe de 7 à 15 policiers municipaux, on a une vraie équipe. Je voudrais rajouter qu'il y a une brigade de nuit aussi. Et je ne rentrerai pas dans les détails.
Jusqu'à quelle heure ?
Jusqu'à 2h ou 3h ou 4h du matin, ça dépend. Ça dépend. Mais en fonction des événements aussi. Mais je veux dire que cette brigade de nuit, qui travaille conjointement, elle aide la police nationale aussi, puisqu'il y a une brigade de police nationale. Et le rendu du travail de la brigade de nuit est assez stupéfiant, c'est le cas de le dire. Pas de permis. Port de drogue. Alcoolisme. Vitesse excessive en pleine ville. Ça, c'est la nuit, à Lourdes. Je dis bien à Lourdes. Et il ne s'agit pas d'être dans le, comment dire, dans la phobie ou la peur. Panique. Moi, je n'ai pas peur. Donc, je ne suis pas obsédé par ça. Mais par contre, les rendus de la police municipale sont assez stupéfiants. Un des derniers, notamment, 18 grammes d'héroïne sur lui. Pas de permis. Alcoolisé en pleine ville. Et quand vous voyez après des affaires comme on voit à la télé avec un jeune homme qui se fait renverser par un homme alcoolisé qui perd la vie, avec le procès actuellement là, plus celui qui a écrasé notre cycliste, mais ça commence par réguler ce qui se passe en ville. Et je pense que quand les habitants ou les gens de passage savent que la ville est sécure, qu'il y a des forces de police.
En parlant de jeunesse, monsieur le maire, oui. C'est vrai qu'un lieu de vie, par exemple l'Arsenal à Tarbes, oui. Qui est un grand lieu de vie pour la jeunesse. La jeunesse, malheureusement et heureusement, a besoin aussi de vivre son adolescence, son début, en sortant, en faisant des expériences. Et voilà, un effet de groupe. L'Arsenal, voilà une friche qui a été transformée en lieu de vie, avec malheureusement, des fois, des morts et beaucoup d'incivilité. Mais c'est un lieu de vie. Voilà, les jeunes sont toujours sortis, on est sortis, eux sortiront, et les autres sortiront après. Lourdes, malheureusement, n'a pas forcément un lieu de vie très identifié pour sortir tard, et donc vont à Tarbes, ou vont à Pau, ou sortent ailleurs. Et là, on se promène aussi le problème du retour, pour certains avec l'alcool, malheureusement certains aussi avec les stupéfiants. Est-ce que quelque part aussi, de les canaliser sur le territoire, même si ça doit engendrer quelques nuisances, est-ce que c'est pas aussi être sécure de les encadrer dans la commune?
Il y a deux niveaux.
Et de faire lourd une ville.
Il y a deux niveaux. Il y a le niveau ce qui concerne les mineurs et ce qui concerne les majeurs. Les majeurs, par définition, ils font ce qu'ils veulent. Les mineurs, c'est autre chose. Donc, je le dis aussi très clairement, je m'adresse aux parents. Nous avons quelques mineurs qui posent certains soucis. Donc, il n'y aura pas de tolérance. J'ai rencontré des parents en leur disant que pour ceux qui posent problème, je n'hésiterai pas à prendre un couvre-feu à 20h si ça doit se passer. Parce que les mineurs sont très difficilement contrôlables au dire de certains parents. Moi, je dis que non. Je dis qu'il faut assumer, à un moment donné, de dire à ses enfants, surtout quand on a 14 ou 15 ans, de rentrer à la maison, à 20h d'être à la maison.
Un couvre-feu?
Ça pourrait. Comme certaines mères l'ont fait. Ça s'est calmé. Les problèmes se sont calmés à un endroit. Mais si dorénavant, nous devons faire face à ce type de problème, avoir des mineurs en ville alcoolisés, en quête de troubles à l'ordre public, etc. Je n'hésiterai pas. Je pense qu'il est temps, je le répète encore une fois, il est temps de faire preuve de courage, de volontarisme et d'assumer. Et ce n'est pas pour autant qu'on est classé politiquement. Je n'ai pas de carte politique, je n'en veux pas. Nous faisons de la politique pragmatique et le pragmatisme, j'ai échangé avec des maires qui ont pris des mesures de ce type à certains endroits. Et je peux vous dire que ça calme, tout le monde se calme.
Concrètement, une famille qui n'arrive pas à gérer son enfant et qui a 15-16 ans dehors, le couvre-feu, le policier le rencontre, qu'est-ce qu'on fait de cet enfant? On le ramène à ses parents et il repart après. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour cet enfant qui est à l'extérieur et qui on va ramener chez lui, on le met au commissariat? Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant qui, s'il y avait un couvre-feu?
On va le répondre à deux si vous voulez, mais tout dépend de ce qui se passe. Si cet enfant a commis un vol à l'arrache ou s'il a ouvert une voiture, il va répondre. Et puis après, il y aura le procureur, le juge pour enfants, etc.
Un signalement.
Bon, mais moi, je voudrais surtout, non pas qu'à l'issue de cette émission, les gens pensent que c'est fort à la mot. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de responsabiliser les gens.
Je pense que cette famille ou cette maman, si elle est monoparentale et qui n'arrive plus à, malheureusement, à assumer son enfant, c'est compliqué aussi pour elle. Et un signalement, un de plus, c'est vraiment un problème familial.
Oui, mais il y a deux choses l'une. Ou vous laissez faire.
Ah non.
Vous êtes au courant, le maire est au courant, la police est au courant et on laisse faire. Ou alors on essaie de mettre des moyens en place pour essayer d'arrêter ça et puis de sauver cet enfant avant qu'il ne commette des choses irréparables, qu'il rentre dans une spirale infernale et une spirale délétère. Je pense qu'il faut s'attaquer. Le mandat d'élu et le mandat de maire, c'est celui qui est le plus proche de la population. Donc on est au courant, surtout dans une ville comme la nôtre, outre le fait que c'est une ville internationale, c'est une ville presque de 14 000 habitants. Donc on sait à peu près où se trouvent les problèmes. Donc, et notamment quand il s'agit de la jeunesse. Quand je disais qu'il faut protéger les jeunes de la vente de drogue, etc., il faut aussi remettre les jeunes qui commencent à partir sur un mauvais chemin, essayer de les remettre dans le droit chemin. Sinon, après, il ne faudra pas s'étonner.
On a fait la part belle à la délinquance et tout ça. On va essayer de parce qu'on a plusieurs des questions, on va essayer d'avoir des réponses assez courtes. Je vous posais la question tout à l'heure, pourquoi on va augmenter le forfait post-stationnement? Alors ça fait la une des journaux, vous avez augmenté la durée du stationnement en bas de ville. Vous avez augmenté le tarif, la tarification. Vous avez passé le parking du Paradis, qui était un parking gratuit pour les visiteurs et les saisonniers. Vous l'avez passé payant. Vous avez augmenté donc le forfait pour stationnement de 30 à 40 euros, minoré à 30 si la personne paye à le rodateur dans les 24 ou 48 heures. 48 heures, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez, par exemple, à dire sur ça, qui, on dirait quelque part, c'est un peu aussi la, dans le rôle du maire et de la police, puisque c'est la police ou les SVP qui font les contrôles, tout ça.
Alors, tout d'abord, je voudrais quand même remettre les choses à l'endroit. Je ne suis que le maire. Je suis un citoyen plus, parce que j'ai le brassard de capitaine de l'équipe lourde, mais pas plus. Donc, quand on augmente le prix et la vacation du parking, pourquoi on fait ça, à votre avis? Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a besoin de recettes, tout simplement. On a besoin de recettes. Je voudrais quand même dire, à propos des... puisque vous me donnez l'occasion d'en parler, très franchement, les recettes, nous les avons. Mais nous ne serons pas plus riches encore. Nous serons moins pauvres. Et je le dis très clairement à tous ceux qui disent les parkings, et apporter deux précisions. Lorsque nous avons augmenté le prix de l'heure, enfin, le prix du parking et la durée, j'ai reçu les socioprofessionnels. Et il ne s'agit pas là de faire un procès en intention aux socioprofessionnels. Mais ce que j'ai reçu, je leur ai quand même dit que le forfait pour 7 mois allait être baissé à 90 euros, soit 46 centimes d'euros par jour. Parce qu'on ne peut pas avoir un forfait saisonnier, la loi ne permet pas ça. Donc il y a un forfait pour tout le monde. Ce qui veut dire que les saisonniers, pour ceux qui se garent en bas...
Le forfait des gens qui se garent...
Oui, pour 7 mois, pardon. D'accord. 90 euros pour 7 mois. Les personnes qui se garent au parking du Paradis.
C'est-à-dire qu'un saisonnier aujourd'hui qui travaille, il peut se garer au parking du Paradis pour 90 euros la saison.
7 mois. Et 170 euros pour l'année. Pour avoir échangé avec d'autres maires, certains m'ont dit, mais vous êtes dans le monde ancien. Les villes touristiques aujourd'hui, ben, les parkings sont payants à un certain prix, il n'y a qu'à aller voir ailleurs. Il y a deux solutions. Moi, je le dis très clairement face à la caméra aux Lourdais, c'est ou les Lourdais qui payent, ou les visiteurs. Au milieu, il y a les saisonniers. Donc, j'ai rencontré les socioprofessionnels et je leur ai demandé, puisque la loi le permet, de prendre en charge ces abonnements, qui ne sont pas très nombreux au final, et de défiscaliser, puisque les patrons, certains le font, certains patrons hôteliers le font, permettant à la ville, à la collectivité, d'engranger des recettes qu'elle a bien besoin, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la ville a des difficultés financières qui, petit à petit, se guérissent, on va dire. Mais il faut des recettes nouvelles, il faut des économies de fonctionnement, ce que nous faisons, mais il faut des recettes nouvelles. Donc, 90 euros, la loi permet de défiscaliser les 90 euros. Pour moi, il n'y a pas de dossier. Ceci étant, on ne peut pas faire le bonheur contre ceux qui ne le souhaitent pas. Parce que quand je parle de recettes, moi je m'inscris comme le représentant des Lourdais. Ça ne va pas dans la poche du maire. Cet argent collecté, il permet de remettre les finances à flot doucement. Il permet de porter un reste à charge sur les projets, pompes, places, etc., pour que notre ville avance. Et on ne peut pas faire de distinguo entre les saisonniers et les touristes. Mais la question centrale, c'est qui paye ? Qui paye aujourd'hui pour relever les finances de la ville? Les Lourdais ou les touristes? Nous avons choisi, ce seront les touristes, comme partout ailleurs. Par ailleurs, comme je m'étais engagé, en ce qui concerne les parkings, il y aura une consultation. J'ai reçu déjà les catégories socioprofessionnelles séparément et il y aura un dernier check global. Nous allons apporter quelques corrections qui nous semblent couler sous le sens. Ceci étant, à ceux qui disent que le chemin du Paradis, c'est 100 000 euros de recettes, quand même, au passage. 99 129,37 euros de recettes. Mais nous allons apporter quelques correctifs, puisque tous les saisonniers ne bénéficient pas de l'exonération fiscale du patron pour pouvoir prendre en charge leur abonnement. Nous allons apporter une poche d'air. Par ailleurs, cet été, pour avoir fait un petit reportage personnel de ce qui se passe en ville, en bas, en haut, pendant une semaine, avec ma moto, donc je me suis promené un peu partout en ville, et j'ai pu m'apercevoir, ça a au moins déclenché des choses intéressantes. Je rappelle qu'en haut de ville, les places sont gratuites, il y a beaucoup de places gratuites, je crois qu'il y en a presque 1300 de mémoire. L'heure est toujours gratuite à la première heure, mais il y a des zones gratuites tout le temps, comme la passe Cap de Vielle, par exemple. Eh bien, j'ai vu des saisonniers que j'ai questionnés venir avec des trottinettes, venir avec des vélos pliants, vous savez, qu'on achète, je ne vais pas nommer la marque, mais et on sort son vélo et on va travailler en vélo à l'hôtel où on travaille ou dans le commerce. Donc ça, quand même, enclenché aussi une sorte de comportement sport santé, finalement, qui n'est pas inutile. Mais pour répondre à votre question, oui, nous avons augmenté les parkings. Nous allons améliorer, ajuster, comme toute mesure qui est mise en place, on fait le check-up final et on ajuste. Et donc, ces recettes vont dans les caisses des contribuables, en fait, pas de la mairie et du maire, des contribuables. Et il y a, et je reviens toujours sur la même question, qui paye dans une ville touristique, les visiteurs ou les lourdés? Nous avons choisi, ce seront les visiteurs. Pour le premier saisonnier, nous allons ajuster et nous allons trouver le modus vivendi par rapport à ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'abonnement.
Je crois que Delphine avait une question sur le parking Peyramale.
Tout à fait. Ce fameux parking Peyramale fermé depuis 2015, il me semble. Oui. Alors, vous aviez annoncé sa réouverture, oui. Un règlement du conflit qui vous oui. opposait à Vinci, si je ne m'abuse. Oui. Et quand est-ce qu'il sera rouvert, concrètement?
Alors, là aussi, sur le... Il faut savoir quand même que nous sommes en France, et la France, c'est lent, c'est long, et c'est lourd. Donc tout ce qui est procédure à mettre en place, tout ce qui est règlement juridique à mettre en place aussi, ça prend du temps. Nous avons pris le pas, et moi personnellement, de régler ce conflit par un arrêt des procédures, en gros, l'argent du divorce. Voilà. Nous nous séparons avec Vinci et Indigo depuis un contentieux depuis un moment. À quel prix on se sépare? Et nous avons obtenu, vous savez, il n'y a pas de miracle, hein, c'est gagnant-gagnant, c'est pas gagnant-perdant. C'est, tout le monde gagne à cette affaire. Donc nous avons décidé d'en terminer avec ce contentieux, ce qui a été réglé, avec une somme qui a été allouée. Cette somme va permettre de faire les travaux qui vont attaquer incessamment sous peu. Et le parking, je pense, sans trop m'avancer, sera réouvert, allez, on va dire au pire, en mai-juin. Et il sera réouvert 2025. En début d'année, premier semestre 2025, il sera 25. Réouvert avec 360 places. Nous sommes en train de travailler sur des tarifs attractifs pour permettre, puisque ça m'est demandé en permanence quand est-ce que le parking va réouvrir. Je souhaiterais qu'il ouvre en même temps que les travaux de la place de l'église soient terminés pour permettre, puisque quelques places vont disparaître, une douzaine de places sur le parvis de la maison, compensées par l'ouverture du parking. Le parking va réouvrir.
D'accord. On avance avec les sujets parce qu'en fait, on a perdu. Voilà, il reste très peu de temps. Et
on a gagné du temps, on n'a pas perdu du temps.
Du sens alterné. Il y a quelques temps un sujet qui était passé sur TF1 sur le sens alterné et le sens ubuesque. Je voudrais deux mots sur si on peut passer le début du sujet, au moins le début.
Nous décidons de nous rendre au sanctuaire de Lourdes. Le GPS est programmé. Nous voilà partis. Direction la grotte Massabielle. Mais à l'approche du site.
Ah ben c'est interdit. Excusez-moi monsieur, je comprends pas, il y a une semaine je suis passé par là pour aller à la grotte et là je peux pas.
C'est Saint-Germain, tous les 15 du mois, le sens change de côté.
Ah bon ?
Une fois vous allez remonter, l'autre fois vous allez redescendre.
Si vous allez à Lourdes, il faut vous attendre à ce genre de mésaventure, car ici, le sens de circulation change tous les 15 jours. Et c'est François qui est chargé d'inverser tous les panneaux.
On est à peu près dans les 130-140 panneaux. Sans compter les temporaires qu'on met.
Donc, un extrait de ce sujet qui était passé sur le journal de TF1. D'autres sujets ont été faits par d'autres chaînes. À une époque, il y avait eu un seul sens, puis vous êtes revenu dessus. Est-ce que vous allez le maintenir ou est-ce que vous avez cette réflexion-là? Est-ce que vous pouvez nous dire des trucs? Parce que, aussi, pour la police, c'est pas évident. Lorsqu'il y a eu un changement, si une personne est arrivée, par exemple, le 14, le 15, elle a tout compris, et le 16, elle prend la route comme elle l'avait d'habitude et claque là, entre le 15 et le 16, il y a eu un changement et elle se retrouve sans le vouloir, vraiment. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une tolérance pour la police municipale en expliquant que le sens a changé et que les GPS, de toute façon, ne sont pas à jour puisqu'on ne met pas les GPS à jour en temps réel?
Vaste sujet.
Oui, et, j'imagine.
Et un sujet à la fois sensible, polémique, mais au final, plus le temps passe, plus les choses se normalisent dans l'esprit des gens. Pourquoi le sens alterné est revenu en 2020? Tout simplement parce que nous avions fait un sondage auprès de la population et 73% des personnes étaient favorables à ce retour. Mais j'avais dit en campagne municipale que c'était à titre expérimental et que nous ferions des expériences, nous en profiterions. Nous avons fait l'expérience du double sens descendant, ce qui avait été demandé par les socioprofessionnels, etc. Ce double sens descendant a montré ses limites.
Mais qui avait déjà été
largement
fait.
Oui, donc ce double sens descendant a montré ses limites parce qu'il y a 17 catégories socioprofessionnelles concernées par la descente vers la zone périsanctuaire et sanctuaire que j'ai réunies, que j'ai rencontrées une par une. Et j'ai terminé par une plénière avec un vote. Sur ce vote, 3 étaient favorables au maintien du double sens, 14 étaient contre et en premier lieu, le sanctuaire, les forces de sécurité et les pompiers, ainsi que Keolis qui fermait sa ligne, parce que c'est 97 000 passagers et il n'y avait plus de sens pour eux avoir une ligne montée, descente, ville de l'autre. Donc, le double sens a été écarté. Ensuite, le sens aujourd'hui coule sous le sens, en fait. Mais ça passe d'abord par une structuration. La structuration, elle vient du plan Avenir Lourdes. Le plan Avenir Lourdes intègre le plan Avenir Lourdes qui est porté depuis 2020 grâce au chef de l'État, au président du département, de l'agglomération, de la région, qui aide fortement la ville de Lourdes sur des projets. Ce plan Avenir Lourdes comprend un schéma directeur urbain qui prévoit la ville à 10, 15, 20 ans. Et dans ce schéma directeur urbain, il y a un schéma de circulation en gestation par des experts qui vont nous rendre, ces experts qui ont l'habitude de aujourd'hui au regard des contraintes aussi sanitaires. J'y viendrai rapidement. Et donc, ce schéma directeur urbain va permettre d'organiser la circulation intramuros, mais extramuros aussi, puisque nous sommes en train de poser un nouvel hôpital avec une quatre voies qui va arriver. Tout ce schéma-là, ce n'est pas un one-shot sur la rue de la Grotte ou le boulevard. Et il faut dire qu'à une époque, les commerçants, en plus, du boulevard et de la rue de la Grotte, s'opposaient sur « il faut que ça descende ou il faut que ça monte », parce que c'est générateur de revenus et de recettes. Aujourd'hui, pour fréquenter le boulevard et la rue de la Grotte, les esprits ont changé. Et j'entends, alors parfois il y a des commerçants qui ont changé en plus de voies, qui ont un commerce maintenant à la rue de la Grotte qu'il avait avant, et qui me disent « nous, ce qu'on souhaite, c'est un sens unique ».
D'accord. Voilà. Donc on se reviendra là-dessus.
Mais moi, j'écoute les gens. J'avais réuni une plénière pour double sens descendant. Le vote a été fait et j'écoute. Et on s'est calé derrière le vote. C'est ça la démocratie participative. Et maintenant, il me semble qu'une fois que le schéma directeur de circulation sera posé, il y aura une concertation large, mais aussi le pont. Parce que le pont payera mal. C'est le point d'extraction de la zone périsanctuaire. On ne peut pas, puisque nous avons réouvert le pont en sens alterné, en arrivant, nous avons fait des tests techniques, on a pu, mais c'est insuffisant. Pour pouvoir organiser un sens de circulation, il faudra des moyens structurants et structurels. Il faudra aussi de la discussion avec toutes les catégories socioprofessionnelles, y compris les résidents et les citoyens de la ville de Lourdes. Et au travers de ça, finalement, ce n'est pas très difficile parce que les choses se font naturellement. De plus, l'État et le préfet m'ont sollicité par rapport à l'utilisation des bornes, mais on ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on utilise les bornes, nous sommes obligés d'avoir un sens particulier. Et bon, ça encore c'est secondaire, mais surtout, lui aussi m'a dit par rapport aux forces de sécurité, mais les forces de sécurité...
Donc les bornes, parce que vraiment le temps nous est contraint, les bornes étaient activées toute la saison, sur l'ancienne mandature, vous avez décidé de ne pas les utiliser pendant la saison, sauf sur des événements majeurs comme le pèlerinage militaire, le national, le rosaire, le frat, tous les deux ans. Et après, le reste... Mais quand vous les fermez pour tout le monde. Et les ayants droit n'ont pas le droit à passer.
Écoutez, lorsque je suis arrivé, il y avait plus de 2000 personnes qui avaient un ayant droit. Donc, pour moi, ce ne sont pas des bornes qui sont posées là. C'est des pseudo-bornes. Deuxième chose, pourquoi nous avons, je n'ai pas décidé. Je ne décide pas seul. Je suis allé à Paris. L'État nous a dit, nous avons investi aussi 1,8 million dans cette opération borne. Nous tenons à ce qu'elle soit, à un moment donné, respectée. Et j'ai échangé, pourquoi aussi? Parce que le modus operandi des terroristes a bien changé. Il est difficile aujourd'hui de monter une opération comme on a vu à Nice, puisque c'est la suite de Nice, avec des camions béliers. Il est difficile de monter des opérations comme ça avec la surveillance qu'il y a. Et je reviens sur nos caméras. Nous avons 82 caméras aujourd'hui. Il y en avait 52 en 2020. Donc, les caméras permettent d'élucider et d'aller à l'encontre aussi du risque terroriste qui existe sur la ville de Lourdes, qui est une ville cible d'attentat. Donc, l'État m'a demandé de maintenir à l'époque, de maintenir sur les grands rassemblements les bornes. Donc, nous avons limité aux grands rassemblements. Deuxième chose, j'ai négocié avec l'État aussi à ce moment-là de remettre des places le long de l'avenue Rémy Sempé, Monseigneur Théas. Donc, au début, l'État ne voulait pas. Et j'ai eu l'idée de les mettre de l'autre côté de la route, ce qui paraît un peu bizarre quand on roule dessus, mais ça a permis au moins de remettre des places tout le long, ainsi jusqu'en haut de l'avenue Monseigneur Théas. Voilà l'objet de la discussion que j'ai eue avec l'État à ce moment-là.
La loi de la sécurité intérieure impose qu'on ne puisse pas se mettre au bord du grillage. Donc, je ne sais pas si 1,50 m de décalage fait quelque chose, c'est une bombe.
Non, il y a plus. Mais, l'État s'est mis d'accord pour qu'on puisse remettre des places, avec des places handicap, etc. Et pour les bornes, eh bien, vu que le modus, je le répète, operandi a changé, que maintenant nous avons plutôt des loups solitaires qui rentrent dans un lieu avec des couteaux, etc., et qui frappent l'individu, il est plus difficile de monter d'opérations d'envergure, comme ça s'est passé à Nice. Et donc, j'ai pu obtenir de l'État d'avoir 6 fermetures, enfin entre 5 et 6 fermetures annuelles. Mais à ce moment-là, c'est opération sécurité maximale. Parce que demain, on peut critiquer, mais demain, la responsabilité, c'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai responsable, et le préfet un peu aussi, sur la sécurité quand même, parce que c'est lui qui est responsable de la sécurité. Le maire, lui, décide d'utilisation des bornes, mais nous travaillons de concert. Je travaille avec le préfet, et nous sommes d'accord sur la façon dont on utilise les bornes protégées. Imaginez-vous, monsieur le journaliste, après les crues, après le Covid, il ne manquerait plus qu'on ait un souci de ce niveau-là sur la ville de Lourdes, avec les difficultés qu'on a eues à se remettre en charge. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle quand même, c'est que le pèlerin est revenu, le touriste, le visiteur, 600 lourdais sont revenus sur la ville. Nous devons absolument sécuriser cette ville. Ce n'est pas l'enjeu que de la ville de Lourdes. C'est une ville extraordinaire pour devenir extraordinaire. Ok, très bien. Mais maintenant, mon ambition et notre ambition en tant qu'élu, c'est de donner les meilleurs moyens de faire venir des gens ici en toute sécurité, comme tout un chacun le souhaite. Et ça, je l'assume.
Donc on termine par la création, il n'y a pas très longtemps, de Garde Champêtre, qui devait être le début de cet entretien. On le termine là, Garde Champêtre. Ça, ce sont deux personnes qui ont été recrutées il n'y a pas très longtemps. Quel est le rôle d'un garde champêtre que ne fait pas la police municipale?
Si vous permettez, avant de céder la parole à Clément, je voulais quand même dire que la création de cette unité Garde Champêtre est à mon initiative. Pourquoi? Pour beaucoup marcher en ville jour et nuit, nous sommes aperçus qu'il y avait beaucoup d'incivilité. Et parfois, j'entends que la ville est sale. Non, la ville n'est pas sale. Les agents de la ville font leur travail. Mais malheureusement, il y a un flou qui se crée par des actes d'incivilité. Je parle des défécations de chiens. Je parle des matelas ou des machines à laver qu'on trouve, comme l'autre jour où j'étais moi à minuit, sur la place Peyramal, où on vient apporter sa machine à laver qui est défectueuse, et on la laisse comme ça.
Et on ne peut pas le faire.
Et non. Et donc, justement, on souhaite avoir une... Alors donc, il fallait quoi? Il fallait une unité spéciale, donc c'est les gardes champêtres. On a fait un appel à candidature. Je voudrais remercier les deux gardes champêtres qui œuvrent. Et ce n'est pas facile. On croit souvent que certaines personnes sont très maladroites ou très irrespectueuses des gardes champêtres. C'est vrai. Les gens insultent nos gardes champêtres quand ils disent « Pourquoi vous mettez un matelas en pleine rue ?» Est-ce que les Lourdais veulent ça? Est-ce qu'ils veulent avoir une ville ornementée avec des matelas, des machines à laver, etc. dans la rue, ou des chiens qui défèquent? Je dis non. Je dis clairement non. Je vous laisse la parole.
Il faut peut-être rappeler que c'est un délit aussi d'insulter un garde champêtre qui est assermenté.
C'est un délit. C'est un risque. La défécation de chiens est un délit et il y a des amendes. Je me demande encore, il y a des poches poubelles avec des distributeurs. Je me demande encore comment les gens... Mais il y aura tolérance zéro. Si on veut avoir des résultats, il faut arrêter de parler, il faut agir. Alors évidemment, c'est contraignant. Certains s'en plaignent parce que je reçois quand même beaucoup de demandes pour exonérer des amendes, etc. C'est non.
D'accord.
C'est non.
Nous avons eu un gros travail de prévention, essentiellement, pendant un an, pour après rebondir maintenant sur un travail de répression. Donc les gardes champêtres, ils verbalisent tout ce qui est incivilité. Oui. Donc La mission principale, elle peut être urbaine, donc en cœur de ville. Nous, c'est ce que monsieur le maire a choisi essentiellement, mais elle peut être aussi périurbaine par aller au lac, à la forêt. Ça nous arrive d'aller contrôler les pêcheurs. Après, ils ont un rôle aussi de verbalisation au code de la route. Ils nous aident aussi dans la gestion des manifestations, puisque c'est, voilà, pour tout ce qui est gros pèlerinage aussi, on les utilise. Et leur rôle essentiel, c'est de la prévention au niveau de la prise de contact. Essayer de rappeler les règles, ce qui a bien fonctionné surtout au niveau des commerces en bas de centre-ville. On avait beaucoup de dépôts par les commerçants, de dépôts de carton non pliés, des petites incivilités. Mais par le dialogue, ça a permis, en fait, et le rappel, ça a permis de les limiter. Après, on en a encore, on va y arriver sur les sites, ce que je vous expliquais tout à l'heure par le biais des caméras. On a besoin d'aide avec cette aide matérielle qui nous permet de lutter contre cette incivilité qui a un coût quand même pour la ville. Parce qu'il faut gérer ces déchets, il faut les traiter.
Et puis vous avez des bennes aussi que vous devez payer, parce que ce n'est pas gratuit.
Non.
Il y a beaucoup de villes qui ont pris le chemin de faire une limitation de vitesse en centre-ville à 30 km/h. Mmh. Et ça porte ses fruits dans plusieurs villes. Est-ce que c'est prévu?
C'est en cours de discussion. Oui. Dans le cadre du schéma directeur de circulation qui rentre dans le schéma directeur urbain, effectivement, de limiter à certains endroits la circulation. Et notamment, nous sommes en train de travailler là sur comment diminuer la vitesse à la rue de la Grotte. Puisqu'on roule assez vite, donc nous sommes en train de réfléchir. Et nous avons trouvé les moyens, on va commencer à équiper avec certaines choses. Nous avons fait un contrôle l'an dernier, rue de la Grotte, 67 personnes verbalisées, contrôlées, non verbalisées, qui dépassaient la vitesse. Donc les commerçants n'en peuvent plus, les restaurants non plus.
Voilà. Et je crois que la police municipale, vous êtes équipée donc, d'un radar, et donc vous avez aussi cette possibilité, donc, effectivement, de faire des contrôles de vitesse et de bruit.
Et de bruit, un sonomètre.
Et vous avez tout cet équipement?
Oui, on a été doté de tout cet équipement dernièrement.
Voilà. Et donc, vous faites peut-être des contrôles que ne ferait pas la police nationale sur des petites rues où les gens vous ont signalé...
Mais dès qu'on nous signale, en fait, des sentiments de vitesse excessive, on se place sur le bord de route et on contrôle. Et bien souvent, on va dire majoritairement, ce sont les propres riverains.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc, il y a une première sensibilisation. Mais c'est vrai que c'est souvent ceux qui se plaignent en fonction des rues. Hein, mais la plupart du temps...
Est-ce que quelque part aujourd'hui, alors, à Lourdes et oui. Malheureusement partout ailleurs, les lois, elles sont faites pour les autres, mais pas pour soi? Est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment aujourd'hui
C'est assez français, on va dire. On me demande sans arrêt dans la rue d'être répressif. Et que ça, je ne suis pas naturel répressif. Il y a pédagogie et imposition. On commence par expliquer. J'ai dit à la police municipale, ne verbalisez pas outre mesure. Expliquez aux gens. Mais celui qui revient une fois, deux fois, trois fois, c'est stop. C'est comme à l'école, ça. Il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est assez typiquement français. On me demande des règles, on nous demande des règles, on pose les règles, et quand il y a les règles, on me demande d'exonérer. Mais c'est français, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Je crois qu'il faut passer à l'action. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, c'est normaliser les choses. Avoir une ville propre, une ville esthétisée, parce qu'il n'y a plus de déjection ou d'incivilité. Et quand on me dit les agents de la ville ne travaillent pas, si, ils font leur travail. Bien sûr qu'ils font leur travail. Donc, et derrière, une ville sécurisée au niveau des incivilités, mais aussi de tout ce qui est délinquant. Et surtout, j'y reviens dessus, la lutte anti-drogue.
Par exemple, nous avons eu, là j'ai récupéré les chiffres, depuis le début du mois de depuis septembre, donc sur l'année, nous avons eu 371 sollicitations. 3171 sollicitations du public pour intervenir sur des faits. Donc ça veut dire que la police est vraiment ancrée dans le territoire. Et les gens appellent cette police municipale. Donc, et on intervient. Donc les agents sont intervenus 3171 fois depuis septembre.
Depuis septembre?
Depuis septembre.
Depuis septembre.
D'accord.
Donc ce n'est pas un leurre, c'est une réalité. Et les policiers qui sont rentrés dans l'équipe, là, que nous choisissons, sont des gens expérimentés, anciens militaires, anciens gendarmes. On est passé à autre chose là. Parce que la société d'aujourd'hui nous demande soit de le faire, soit de mettre un voile dessus. Nous ne le mettrons pas un voile dessus, nous le faisons humblement, parce que Tous les résultats ne sont pas acquis d'entrée, mais nous le faisons et il faut continuer à le faire, quelles que soient les équipes qui se succéderont.
Des communes aux alentours de Lourdes viennent vous voir pour voir un peu le retour d'expérience des gardes champêtres.
Des gardes champêtres et des policiers municipaux, oui.
Aussi
oui, on a moi je suis souvent sollicitée, oui.
D'accord.
On échange avec les autres polices municipales et
des idées aussi qui peuvent.
Oui, oui.
Merci beaucoup. Voilà, le sujet de la sécurité donc était le sujet de cette émission. On n'a pas trop eu le temps de parler, Delphine.
Du tout. Mais je crois que c'est le sujet du bulletin municipal. Donc peut-être que on peut aller plus avant pour les questions qu'on n'a pas pu aborder.
Voilà. Alors un couvre-feu est évoqué. On est passé donc de 7 à 15 policiers municipaux, 9 policiers nationaux en plus. Vous avez donc rajouté des caméras. 82 caméras. Et le parking Peyramale a fermé en 1er janvier 2018.
Ah.
Voilà. Pour être exact. Et donc, vous avez répondu sur l'augmentation de la tarification des
ordinateurs.
Vous avez ajuster. Dit que donc, le parking Peyramale réouvrirait aux alentours d'avril.
Non, premier semestre
2025. Et qu'on allait peut-être sur un seul sens et fin de l'alternance donc rue et boulevard.
J'ai dit que le sens définitif coulait sous le sens. Parce que les mentalités aussi ont évolué, les événements ont évolué, la technique a évolué, la sécurité aussi est de prime, et que je consulterai largement à ce moment-là, une fois que la structure sera posée, à savoir le pont.
Et au grand dam de mon collègue qui est là-bas, il n'aura pas donc des endroits pour aller se garer pendant que les bornes sont actives. Merci beaucoup.
Merci Monsieur
merci
le
vous,
maire.
Clémence.
Merci à vous.
Et merci à vous, Delphine.
Merci, bonne journée.
L'heure de pointe, Philippe Subercase.